Bonjour à tous. C'est une joie de vous revoir. Vous êtes venus assez nombreux pour cette topo qui aura comme trame le fait de cultiver ses talents. Cultiver ses talents, qu'est-ce qui nous empêcherait un peu d'autant plus que la question des talents aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué parce qu'on est en permanence noté, si vous voulez, on est en permanence fléché, dès que vous mettez, vous avez une location saisonnière, dès que vous prenez un Uber, dès que vous prenez, un restaurant, vous notez où vous êtes noté, etc. Donc, le fait de cultiver ses talents en ayant un peu cette pression du résultat, cette pression de la perfection, cette pression, c'est pas forcément facile parce qu'on ne s'autorise pas un certain nombre de choses. Et comment grandir dans une forme de liberté intérieure avec ces talents qui nous sont donnés et par le Seigneur, puisque nous sommes dans une dimension spirituelle, et par notre nature, mais notre nature est aussi, on la reçoit de la main du Seigneur. Et je pense qu'on fera un peu, on verra ça tout à l'heure. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un talent talent ou charisme? J'emploierai les deux de façon indifférente. Charisme, en grec, charisma, ça veut dire don. Donc, qui dit charisme, dit quelqu'un qui a donné. Donc, c'est l'affirmation d'une transcendance. Quand on dit « j'ai reçu un charisme, j'ai reçu un don », donc c'est cette idée-là que, dans une dimension de foi, j'ai reçu des talents. Alors, la personne qui n'a pas la foi ou qui n'est pas dans une dimension religieuse dira plus volonté talent, quoi qu'on parle de personnalité charismatique, vous entendez dans les médias, c'est une personnalité charismatique, etc. Bon. Mais nous, comme on l'entend, c'est vraiment une relation à Dieu, le charisme, alors que le talent, on peut le voir de façon tout à fait humaine, horizontale, psychologique, qui nous a été donné à travers notre caractère, etc. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un... comment est-ce qu'on peut définir un charisme? Et je vous pose la question aussi, et réfléchissez-y au cours de cette soirée, quel est votre charisme? Vous avez... chaque vie est une vocation, chaque vocation est une mission, forcément vous avez un charisme, forcément. Forcément vous avez un charisme. Et comme vous savez, je prépare beaucoup des couples au mariage, je pose la question, mais c'est quoi le charisme de votre couple? Quel est le don qui vous a été fait pour que vous puissiez transmettre et cet amour qui vous unit, etc. Donc, un charisme, il y a plusieurs manières de le définir, mais moi j'aime bien cette définition. Un charisme, c'est faire facilement ce que les autres font difficilement. À quoi tu as un charisme? Parce que tu as une facilité, à faire les choses où d'autres ont de la difficulté. Par exemple, certains ont de la facilité pour organiser. On va voir un peu les différents charismes selon le tempérament, etc. Certains ont de la facilité pour organiser. Certains ont de la facilité pour mettre les gens en connexion. Certains ont de la facilité pour qu'un groupe s'entende bien. Certains ont de la facilité pour qu'il y ait... pour relever des défis, pour prendre des décisions. D'autres, au contraire, sont très indécis. Oui. Donc, on va voir un peu, dans un premier temps, à travers les différents styles de caractère, quels sont les charismes. Et ça, je pense que c'est intéressant de voir que les charismes que nous avons s'inscrivent dans notre nature et s'inscrivent dans notre tempérament. Donc, en fonction de notre tempérament, on va voir un peu mon idée, si on peut traiter de cette manière-là, un peu attaché à tel tempérament. Alors, on ne va pas surtout rigidifier, soyez attentifs. L'idée, c'est de donner un ordre de grandeur. Mais si au niveau du terme tempérament, il n'y a pas qu'une seule catégorie ou une autre. Mais il y a grandes lignes dans le caractère et qui déterminent des manières d'agir dans un sens ou dans un autre. Le premier caractère dont je vais parler, c'est la personne qui est plutôt perfectionniste. Cette personne-là, à chaque fois, il y a une petite histoire. Un dimanche matin, un déjeuner de famille. Il pleut dehors. La petite fille saute dans les flaques. Une heure plus tôt, elle était heureuse de sa spontanéité, mais est privée de dessert car elle est toute sale en rentrant. Sa spontanéité est mise à mal. Elle a un juge intérieur qui en permanence la questionne, c'est bien, c'est mal, en respectant une règle stricte et rigide pour pouvoir être aimée. Toujours c'est ça. Elle est pleine de culpabilité, elle garde le contrôle d'elle-même, reste dans les clous pour être aimée, paradoxalement. Voilà, c'est cette personne-là qui avait à un moment donné sa vie de spontanéité, et cette spontanéité a été cassée. Du coup, toute une personnalité qu'on appellera perfectionniste a été développée, et voilà, et donc toujours et à travers chaque style de tempérament, je vais vous dire aussi, en fait, c'est toujours pour être aimé. On développe dans notre vie, à partir de blessures qu'on a pu recevoir dans notre existence, des stratégies qui font qu'on va plutôt dans un sens, on perçoit qu'être aimé, c'est comme ça. Pour cette petite fille qui était toute spontanée, elle va dehors, elle se saute dans, les flaques, etc., elle revient toute sale, et bien voilà, la spontanéité c'est fini, privé de dessert, tu montes dans ta chambre, etc. Donc du coup, il faut que je reste parfaite, et je ne bouge pas, donc une certaine rigidité. Mais quel est le charisme? Imaginons que vous vous reconnaissiez dans ce style de caractère, imaginons. Le charisme de ce style de caractère, je trouve, c'est d'abord, c'est une personne qui recherche toujours le mieux. Cette exigence qu'elle a la fait adhérer au sens du détail, la rend attentive, cette personne, à chacun dans la vie quotidienne. C'est des personnes en général qui sont authentiques et qui détestent la flatterie. Donc, des personnes qui recherchent l'autorité qui est compétente. C'est intéressant de dire que, au fond, dans cette personnalité-là, de perfectionniste, il y a une rigidité, il y a beaucoup de peur, au fond, derrière ça. Mais dès que je perçois qu'une personne à qui je peux faire confiance et qui est en autorité, c'est des personnes, c'est des caractères qui peuvent être d'excellents seconds, par exemple, hein, au niveau du travail. Ensuite, une autre forme de caractère, la personne qu'on appellera altruiste, aidant, sauveur, indispensable. Hein. Donc c'est la personne qui se force à rendre service sans que personne ne lui ait demandé. Alors ça me fait penser à un frère en communauté, par exemple, dont je tairai le nom, évidemment, mais plus zélé qu'éclairé. Si vous voulez, il y a des personnes comme ça qui sont... des frères, voilà, ils veulent toujours rendre service, en plus, c'est à côté de la plaque, bref. Toujours est-il que ça, c'est ma vie personnelle, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, mais ça, c'est intéressant, les altruistes, les personnes qu'on appelle aidantes, aussi un peu sauveurs, qui veulent se rendre indispensables. Le jour de son, la petite histoire, le jour de son anniversaire, la petite fille achète une robe bleue et veut la montrer à son papa. « Regarde ma robe comme elle est belle, pousse-toi de la télé, tu me déranges, si tu veux être utile, apporte-moi une bière. » Je décèle le besoin de l'autre avant même qu'il les exprime. Elle s'en veut de ne pas avoir décelé le besoin de son papa. Il seconde celui qui aime être devant la scène. Le papa m'a ignoré. Si je rends service, je serai aimé. Rendre service pour être aimé. Hein? Si tu veux être utile, va me chercher une bière. Donc, et son péché, quelque part, c'est trop rendre service et parfois même vouloir rentrer en relation et en même temps casser la relation parce que c'est trop, vous voyez. Mais si vous avez un peu ce style de tempérament, je trouve intéressant de dire quels sont les charismes que vous avez. Premièrement, vous avez une bonne intuition. Vous avez une bonne intuition. Vous avez une intuition des difficultés qui peuvent se... Une intuition de ce que pensent les autres. Vous avez une grande empathie, vous êtes dans un groupe fédérateur, et ça c'est un charisme, et avec une grande adaptabilité. Vous privilégiez les relations au travail, hein, la qualité de la relation, vous êtes capable de passer du temps avec les autres, hein, vous savez reconnaître la personne qui va pouvoir, il y a une sorte de discernement lié à cette personnalité-là. Ensuite, la personne qui est, on pourrait dire, un battant, un gagneur. Cette personne-là, c'est toujours une petite histoire, donc ce qui l'embête le plus, c'est l'échec. Hein. Un garçon rentre de l'école avec de mauvaises notes. Il sent dans le regard de sa maman un vrai désespoir. Quand il annonce qu'il a de mauvaises notes, la réponse que j'ai donnée a mis en danger la relation avec sa maman. mis en péril l'amour de sa maman. Si je mens pour ne pas la décevoir, ils promeuvent, ces personnes-là, une réussite, peur de l'échec. La relation peut s'arrêter à un moment ou à un autre. Ce sont des hyperactifs. Donc les battants, les gagneurs. Mais les battants, les gagneurs sont des personnes qui, au fond, aiment la compétition, mais sont aussi enthousiastes. Et si vous êtes dans ce style de personnalité, votre enthousiasme, il est communicatif. Votre enthousiasme vous permet d'être organisateur. Vous décrivez bien les tâches, vous précisez les buts à accomplir. Par exemple, dans une vie professionnelle, des personnes de ce style-là, battants, gagnants, ils ont beaucoup de facilité à exercer l'autorité. C'est des meneurs de groupe, une capacité de stimulation des autres. Donc c'est intéressant en fonction, encore une fois, de ma personnalité, qu'est-ce que je vois des talents que je peux avoir. Ensuite, un autre profil qui est complètement différent, c'est le créatif, l'artiste, un peu le drama queen. Vous voyez, drama queen, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment submergées, j'allais dire, submergées par l'émotion. L'émotion, il y a une recherche de connexion avec l'autre. Dans leur manière d'agir, il y a une sensibilité, mais surdimensionnée. Une sensibilité surdimensionnée. Mais en même temps, il y a un charisme parce que c'est forme de caractère assez artistique, etc. C'est un charisme parce que c'est, premièrement, c'est des personnes qui ont un sens inné du beau. La recherche du beau, pour elle, est quelque chose qui est assez facile. Il y a un vrai don qui est fait là, une dimension artistique. Spontanément, ces personnes créent du beau autour d'elles, à la maison, au travail, rend la vie plus belle, souci d'esthétique, valorise le futur, capable de vivre des relations intenses, capable d'empathie. Oui, c'est des personnes qui, à la fois, ont une certaine fragilité. Alors, c'est assez touchant parce que des personnes un peu artistes, un peu comme ça, très créatives, un peu romantiques, etc. Donc il y a énormément de sensibilité, énormément de... Et à la fois une certaine fragilité. Mais dans leur fragilité, il y a une capacité de rejoindre l'autre qui est en difficulté. Et je trouve que c'est aussi un talent. Ça fait partie des talents à cultiver. On est en train de rejoindre l'autre qui est en difficulté. Ces personnes-là sont capables d'aller à la rencontre de personnes qui sont rejetées de la société, par exemple, parce que, avec leur souci d'esthétique, elles voient une certaine beauté dans ces personnes-là. Et puis, vous avez un autre style de caractère, un caractère qu'on appellerait observateur, penseur, un peu cérébral. Il analyse, c'est un analyste. Lui, il analyse la personne, il rentre dans les personnes en cherchant à les connaître. C'est un peu cet enfant qui n'a pas eu d'intimité. Je suis dans ma chambre, une personne est entrée sans que je le sache, ou il prend la douche et les personnes rentrent dans la salle de bain sans respecter mon jardin secret, ma privacité, etc. Et donc on l'appelle l'observateur parce que il s'est senti à un moment donné dans sa vie qu'il y avait une intrusion. On est rentré par effraction dans sa vie, dans son périmètre de sécurité. Et donc il va s'éloigner pour mieux voir, et il va se mettre, je sais pas quoi, dans l'église, va se mettre peut-être le plus loin possible derrière, peut-être derrière un pilier ou derrière ça pour regarder. Il est sur son mirador, il observe, il est assez dans le contrôle, ça, cette personne-là. Et ça, c'est intéressant de voir que voilà, c'est il va se mettre à l'opposé de la porte pour voir, pour observer le plus ce qui se passe dans une salle, par exemple. C'est des personnes qui sont pas mal dans le contrôle. Maintenant, les charismes de ce style de personnes, c'est premièrement, la solitude ne lui fait pas peur. Ils ne sont pas à vous demander d'être votre ami, etc. C'est un excellent décideur, car il cloisonne la partie émotionnelle et la partie rationnelle. C'est une personne qui analyse bien les choses, les événements et les personnes, car il se met précisément sa psychologie a fait qu'il s'est mis en retrait et sur un promontoire pour observer. C'est là où il est à l'aise et du coup il est en sécurité dans ce moment-là. Donc son charisme, c'est d'être assez bon dans le travail de connaissance des autres, cette capacité à accompagner les autres. Il veut vivre le maximum de choses dans un minimum de temps. Hein, c'est quelqu'un qui a une capacité à connaître et pour cette personne-là, ce style de caractère, le fait de prendre du temps pour rentrer en connexion avec l'autre va être une source de joie pour elle. Donc, quels sont les voilà, donc ça fait partie des charismes qu'il y a. Ensuite, vous avez un autre style, hein, de tempérament. Voilà, c'est des grands styles de tempérament. Alors, encore une fois, ne rigidifiez pas les choses, c'est parce que les choses sont souvent plus complexes que ça. Mais c'est important de se comprendre parce que on peut se reconnaître dans l'un ou l'autre des tempéraments. Hein, des personnes qui sont les gardiens de la loi. Les gardiens de la loi, un peu légalistes, souvent des personnes anxieuses. Pourquoi c'est arrivé? Parce que c'est un petit garçon, il avait 5 ans, il dort tranquille, à côté nous sommes dans le salon, dit ses parents, et puis il se réveille, il voit qu'il n'y a personne dans le salon. Et il se sent à un moment donné abandonné. Et on lui a menti. On lui a menti, et avec ce style de personne, comme il y a une loi et qu'il faut la respecter, et si tu ne respectes pas la loi, tu mens une fois, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de relation possible. Parce que ça le met trop en insécurité. Hein. Sur le charisme de ce style de personnes, je trouve que c'est des personnes qui sont font confiance à une autorité dont ils savent la pertinence. C'est des très bons seconds, par exemple. C'est parce qu'ils sont loyaux, précisément, ils sont loyaux, ils font confiance quand ils savent qu'ils sont en sécurité. Hein. Ils sont en confiance parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité. La relation à Dieu, par exemple, et donc à la loi aussi, et la relation à l'Église est très importante. La fidélité à la relation à Dieu, la fidélité au groupe aussi, c'est des gens qui aiment beaucoup la dimension de groupe, ça les assure, et le fait d'avoir de se déplacer en meute, j'allais dire, c'est quelque chose qui les soutient, etc. Donc voilà, donc ça c'est pour les tempéraments un peu légalistes, un peu gardiens de la loi, etc. Et puis vous avez un autre tempérament, qu'on appellerait épicurien, gourmand, voilà, jouisseur. Des personnes qui, en permanence, fuient la souffrance, parce que peut-être elles ont été contraintes dans un lieu où elles devaient souffrir, mais ça peut être tout simplement aller chez le dentiste, et maman tient le bébé ou l'enfant sur le siège du dentiste, pour pas qu'il bouge, etc. Et cette sensation qu'il a eue d'enfermement fait que sa vie durant, il va développer un caractère qui veut, au contraire, ne jamais être enfermé et surtout profiter de tout un maximum de tout. Hein, donc c'est des personnes qui compensent en permanence dans la vie pour un maximum de plaisir. Hein, donc ils veulent surtout voir le positif, ça fait partie de leur charisme, mais ont beaucoup de mal à faire le deuil d'un certain nombre de choses. Or, dans notre vie, on le sait très bien, il y a aussi des deuils auxquels il faut consentir. Leur charisme, c'est... ils rendent la vie plus agréable, la vie des autres plus agréable. Ils soulignent le positif chez les autres. Hein, ils sont capables de faire 1000 choses à la fois. Ils ont un contact agréable, donnent des solutions nouvelles, sont créateurs, optimistes, hein, créent une bonne ambiance, détendent des situations stressantes. Parce que, justement, comme c'est une personne qui est en recherche de plaisir, eh bien, ce style de personne, eh bien, elle est dans une attente d'être attentive, justement, à créer une dimension et une relation qui est plaisante. Et puis, vous avez un autre type de caractère qui est... Le leader, le chef, hein, le meneur, hein, c'est quelqu'un qui est très sensible, qui a vécu une injustice et qui est sensible à défendre la personne qui est plus fragile. Hein, donc, il va être. C'est quelqu'un qui raisonne beaucoup par. Son charisme, c'est l'intuition. Il a une grande intuition. Une intuition, mais qui est charnelle presque. Il sent charnellement s'il y a quelque chose qui va ou ne va pas dans une relation, dans un groupe. Intuitivement, mais ça se passe au niveau du ventre pratiquement, que ce soit par l'angoisse ou au contraire par la détente, il va découvrir qu'il y a quelque chose qui va ou ne va pas dans un groupe ou dans une personne. Et donc, c'est une personne très précieuse pour le discernement, ce style de personne. Hein. Il n'a pas peur du conflit, défend celui qui sublime l'injustice, il est fasciné par la personne du Christ et son courage. Voilà, c'est une personne comme elle a eu à franchir l'injustice. Tout ce qui est défi, tout ce qui est conflit ne lui fait pas peur. Au contraire, parce que c'est là où elle affirme sa personnalité. Hein, et surtout quand, dans ce conflit-là, il y a des personnes qui sont en fragilité, qui sont en jeu. Et puis le dernier style de caractère, c'est le médiateur, celui qui fuit toujours le conflit. Voilà, il est très attentif à ce que... Il ne dit jamais non, par exemple. Il ne veut absolument aucun conflit. Il dit oui à tout, même des choses qui sont contraires. Par exemple, est-ce que tu aimes le bleu? Est-ce que tu veux sortir ce soir? Oui. Est-ce que tu veux rester ce soir? Oui. Voilà, donc, c'est des personnes compliquées. C'est compliqué de leur faire plaisir. Parce que c'est toujours oui. Oui, c'est toujours oui. Alors, on dit, bah, c'est sympa des personnes. En fait, ça peut être complexe des personnes à gérer comme ça. Parce que, précisément, comme elles sont... Ah oui, elles sont passées. C'est des médiateurs, des pacificateurs. Mais c'est des personnes jamais qui montreront, j'allais dire, leur fort intérieur. Vous voyez, auront beaucoup de mal à montrer avec leur fort intérieur. Et voilà, donc... et à dire qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qui... En revanche, comme charisme, hein, la sérénité intérieure, mais du liant dans un groupe, ils savent difficilement dire non, c'est vrai, mais ils sont à la fois très serviables, ils perçoivent aussi les besoins des autres, il est un excellent second aussi, s'il est dans la confiance. Vous voyez, voilà, donc c'est... Rapidement, c'est un petit peu fastidieux, mais rapidement, un peu les styles de caractère que j'ai voulu décrire, qui, encore une fois, il peut y en avoir d'autres, hein, mais c'est à grands traits, hein, des grands styles de caractère. Mais c'est important, tout ça pour vous dire que c'est important que dans le charisme, le talent, cultiver ses talents, c'est aussi dans votre personnalité que vous allez découvrir quels sont les talents que vous allez. Auquel vous êtes appelé, à quoi vous êtes appelé précisément, parce que c'est à travers votre personnalité que vous êtes, je suis plus un talent de coordinateur, j'ai plus un talent aussi d'apaiser les relations, comme le médiateur, j'ai plus un talent, j'allais dire, d'être gardien de la loi, donc de faire respecter les choses, etc. Donc j'ai plus un talent artistique, d'analyse analytique, etc. Donc c'est bien que vous puissiez peut-être à travers ces quelques styles de caractère, peut-être vous dites, je suis plutôt ceci, cela, bon, grosso modo, sans rigidifier les choses, mais vous dites, je me reconnais plutôt dans ce style de caractère, ou peut-être dans un autre, parce que ce n'est pas exhaustif, et de dire, comme j'ai essayé de le faire, qu'il y a des talents, chaque nature humaine, même si au départ il a pu y avoir une blessure, mais chacun d'entre nous a aussi des charismes qui sont nés de la manière dont on s'est construit par rapport à la blessure. Vous voyez, c'est vraiment intéressant ça. C'est-à-dire, et ça c'est profondément chrétien, c'est la blessure, oui. 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 Ah oui, oui, oui. Oui, 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 tout à fait. Oui, il y a plusieurs.
Il y a 5 blessures et plusieurs caractères.
5 blessures, plusieurs caractères et plusieurs talents. parce que c'est le thème, c'est cultiver son talent. Mais c'est intéressant de voir comment, à travers une blessure, par exemple la question de la trahison, ça fait partie évidemment d'une des blessures, la question de l'abandon, la question du mensonge, la question de ne pas accepter sa propre personnalité, etc., de sa spontanéité, bon, tout ce que j'ai pu dire. Mais c'est vrai, ces cinq blessures font que chacun va développer, mais de façon complètement inconsciente, des stratégies qui vont ensuite arriver à des styles de caractère, et de ces styles de caractère, ça va arriver à des talents. Oui ? Ah, c'est pas lié à la génétique ? Alors là, je ne suis pas compétent pour le dire. A priori, je ne vois pas. Bon, peut-être les neurosciences détermineront les choses, mais je crois beaucoup plus à cette question de. J'ai vécu des épreuves dans ma vie, il y a eu des moments où je me suis senti rejeté, tu l'as très bien dit avec les cinq blessures. Tu peux les répéter, les cinq, parce que c'est beaucoup plus clair que. Rejet, trahison, humiliation, abandon et injustice. Voilà, donc injustice. Les cinq blessures qui nous. Certains ont vécu plus ou moins. Et qui. Mais non, je ne vois pas ça. Parce que ce qui me taquine avec la question de la génétique, c'est que quelque part, on n'aurait pas le choix. Oui, ouais. Ah ben, tu as tel ADN, tu as tel chromosome. Et soyez attentifs, juste par rapport aux neurosciences, peut-être certains travaillent dans ce domaine-là. Soyez attentifs. Il y a des choses très positives qui peuvent sortir, par exemple pour l'apprentissage, au niveau de l'éducation, etc. Mais attention, où est le libre arbitre ? Et nous croyons que, là pour le coup, comme disciples de Jésus, que nous sommes au fond, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, et ce que nous avons par rapport à nos difficultés, aux blessures que nous avons eues, à nous déterminer. Nous avons pu, alors de façon parfois inconsciente, et c'est là où le travail, et je trouve l'époque que vous vivez, que les uns les autres, cette époque de jeune pro, et pour beaucoup d'entre vous de célibat aussi, qui correspond à ça, c'est une période dans laquelle vous allez travailler sur vous-même, de prendre conscience en fait que ce que j'ai vécu inconsciemment quand j'étais enfant, je veux le vivre consciemment maintenant comme adulte. Ah oui, j'ai été victime d'une injustice parce que, tout simplement, les parents sortaient, j'étais le dernier frère, et j'avais des frères aînés, et que les frères aînés, ils disaient, ah ben c'est toi qui descends la poubelle, ah ben c'est toi qui fais le repas, ah que c'est... Voilà, on parle de blessures, on parle pas des blessures, bon, malheureusement, liées à la guerre, etc., des choses comme ça. Non, on parle de blessures de vie quotidienne, oui. Où j'ai eu le sentiment d'être trahi, comme je vous ai dit, par rapport à l'enfant, les parents lui disent, je suis dans le salon, en fait, ils ne sont pas dans le salon, ils sont sortis dehors, peut-être 10 minutes, et ils sont rentrés après, mais pour lui, on m'avait dit une parole, et cette parole-là, il ne fallait pas y déroger. Je vais dans le salon, je ne vois pas les parents. Insécurité. Hein, vous voyez, donc, et pareil pour l'abandon, etc. Bon, donc, soyons attentifs, comment nous avons développé nos tempéraments progressivement, inconsciemment, et aujourd'hui nous avons cette capacité à travers nos réactions, là je simplifie à l'extrême parce que c'est pas, voilà, c'est, mais comment aussi à travers ces blessures, il y a des charismes qui sont nés. Et ça c'est capital, et ça c'est notre dimension chrétienne. Nous croyons que nous sommes des êtres blessés par le péché originel et les conséquences du péché, que nos parents étaient pécheurs, même s'ils ont fait du mieux, etc. Il y a des choses qui, oui, non pas parce qu'ils étaient colériques, parce qu'il y avait une famille nombreuse, on ne pouvait pas s'adresser à tout le monde de façon identique, il y a certains qui se sont sentis abandonnés, parce que d'une manière ou d'une autre, nos parents, voilà, ont eux-mêmes leurs propres blessures, et parfois nous les ont communiquées. Bon, bref, mais ce n'est pas parce que je suis blessé que je ne peux pas construire quelque chose. Je ne peux pas être tout le temps victime. Je ne peux pas tout le temps être victime. Et ça, c'est. Et c'est pas parce que je suis blessé que je n'ai pas des charismes. Et ça, je crois que c'est vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile, face aux cinq blessures que tu nous as détaillées, qui sont vraiment. Ces cinq blessures-là, à travers lesquelles plusieurs styles de caractère se construisent, eh bien, on génère aussi des charismes. Il n'y a pas de vocation, de vie sans vocation, il n'y a pas de vocation sans mission. Donc, je veux dire, personne ne peut dire, à cause de ce que j'ai vécu, terrible ou qui nous paraît, nous, un peu insignifiant, peu importe, mais pour la personne, ça comptait, personne ne peut dire qu'il n'a pas de charisme. Impossible. Qu'il n'a pas de talent. En tout cas, humainement, dans ce que je vous ai dit, c'est uniquement une description humaine, vous avez vu, hein. Ensuite on verra la partie spirituelle plus tard, mais humainement, je ne peux pas dire que j'ai pas... Bon, il y a des personnes, par exemple, vous leur demandez quelles sont vos qualités. Hein, typique, tes qualités, tes défauts, moi, c'est dans l'entretien d'embauche, c'est un truc, quelque chose qui est assez fréquent. Quelles sont tes qualités? Beaucoup de difficultés à dire les qualités. Tes défauts, alors tout de suite, ça coule comme un fleuve. Vous voyez, donc, c'est des personnes comme ça qui... Or, je trouve que le fait de dire ces charismes, comme je vous ai dit au départ, charisma, ça veut dire don, donc c'est que n'as-tu que tu n'es reçu. À la fois, je me suis construit avec ça, et à la fois, dans un regard de foi, le Seigneur m'a accompagné pour que la construction de ma personnalité aille dans ce sens-là ou dans un autre. Les personnes que j'ai rencontrées m'ont aidé à me construire d'une manière ou d'une autre. Donc, je trouve ça intéressant de faire mémoire aussi à travers aujourd'hui, à travers la construction de nos personnalités, comment deux moments qui ont pu être difficiles, comment ces personnalités-là, au fond, on les reçoit aussi du Seigneur. Comment faire fructifier ses talents, c'est recevoir son humanité de Dieu. C'est-à-dire que je vois mon humanité comme une grâce. Je vois mon humanité comme un don. C'est peut-être pas cette humanité, ce caractère, parce que je sais que je suis par quoi de colérique. Je sais que je suis une drama queen et que j'en fais des montagnes pour tout. Voilà, tout était, voilà, au niveau émotionnel, tout est puissance 10. Vous voyez, donc je sais que je suis un peu du genre psychorigide, perfectionniste, légaliste. Ouais, bref, bon, je prends conscience de ça. Mais une chose, c'est la prise de conscience. Autre chose, c'est le travail sur soi-même que vous avez. Des styles de caractère qui ont été travaillés, ça donne de très belles personnes. Brut, ça peut être compliqué, quand il n'y a pas eu de prise de conscience, mais quand il y a une prise de conscience et que de la main du Seigneur, vous travaillez votre caractère, et évidemment, pour beaucoup d'entre vous, le désir de former un couple, vous habite, hein, je sais, ou même certains ont l'aspiration à une vie consacrée, vous n'échapperez pas au travail sur vous-même. Vous n'échapperez pas au travail sur vous-même. Ça, soyez absolu. Quel que soit votre style de caractère, hein, j'en ai décrit un certain nombre, quel que soit votre style de caractère, vous n'échapperez pas à un travail sur vous-même. Et du coup, le fait de découvrir que j'ai un travail à faire sur moi-même, déjà, c'est passionnant, parce que c'est la grande histoire de notre vie. C'est la grande histoire de notre vie, de dire, ben, en fait... je suis maître à bord aussi, et je peux mettre en place, peut-être avec l'aide de professionnels, parfois il y a des blessures qui, on parlait de blessures d'abandon, de trahison, d'injustice, etc., qui sont très profondes. Alors, parfois il y a des pathologies, il y a des stratégies qui ont été développées, mais aussi il y a des pathologies qui sont nées de telle ou telle personnalité. Alors ça, c'est de l'ordre médical, pour le coup. Vous voyez, donc, mais je veux dire que ce travail sur moi-même, c'est l'œuvre d'une vie. C'est l'œuvre d'une vie, et de la main du Seigneur, mue par le Saint-Esprit, vraiment, j'en suis vraiment conscient, et puis de l'expérimenter, mue par le Saint-Esprit, comment nos humanités, telles l'argile dans les mains du potier, eh bien sont façonnées par le Seigneur, et puis qui nous aident, et puis par nous-mêmes aussi. Hein, nous sommes les premiers artisans de nous-mêmes aussi, c'est aussi par ça que passe le Saint-Esprit. Pour peaufiner, pour travailler la personnalité, que ce ne soit pas brut de fonderie, mais que ce soit des personnalités qui soient travaillées, et du coup qui donnent lieu à des belles personnes, oui, avec des beaux charismes. Donc ne mettez pas sous le boisseau la lumière qu'on doit mettre sur le lampadaire, hein, nous dit le Seigneur, hein, dans une parabole. Ne mettez pas sous le boisseau la lumière qu'on doit mettre. Vous avez une lumière, vous avez une lumière, forcément. Vous avez quelque chose de lumineux en vous. Vous avez quelque chose de plus compliqué dans vos personnalités, qui n'en a pas. Mais moi, aujourd'hui, je veux vous dire que vous avez quelque chose de lumineux en vous. Et que cette lumière-là, vraiment, prenez-en conscience. Et non seulement prenez-en conscience, mais faites-la briller. Parce qu'un charisme n'est pas pour soi-même. Un charisme n'est pas pour soi-même. Un charisme, c'est pour d'autres. Justement, c'est... À quoi est-ce qu'on reconnaît un charisme? Je veux dire, faire facilement ce que d'autres font difficilement. Mais un charisme aussi, il nous pousse, si c'est un don, il nous pousse aussi au don de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment capital. Hein. Les talents, repérer ses talents, hein, en fonction un peu de son profil, son style de caractère, etc. Hein, et puis en faire un lieu de don. Comment je peux construire la communauté humaine avec la nature, avec mon caractère? Comment je peux construire le royaume avec mon caractère? Caractère sur lequel je travaille, caractère sur lequel je vais demander pardon, et le temps du carême, on sait très bien, c'est un temps béni pour pouvoir travailler sur soi, parce que c'est un temps de combat spirituel. On voit bien que en nous, on a des côtés excessifs dans un sens ou dans un autre. Voilà, ce caractère-là, bien, je vais pouvoir, de la main du Seigneur, le travailler et faire quelque chose de lumineux. Soyez très confiant là-dessus. Souvent, vous manquez de confiance dans vos charismes. Et c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est dire, ah non, c'est dire, j'ai pas de charisme, j'ai pas de qualité. La très sainte Vierge, qui est, elle, humble par excellence, hein, voilà, elle sait très bien, elle dit très bien, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Voilà, elle reconnaît l'œuvre de Dieu en elle. Connais-tu que tu nous reçus? Je reconnais l'œuvre de Dieu en moi. Hein, regardez la merveille que je suis. Hein, tout ça, c'est dans la Bible. Hein, donc, dans le Magnificat, la Vierge Marie rend grâce pour ce qu'elle est aussi. Et je crois que l'humilité, c'est reconnaître ses talents, c'est reconnaître le lumineux en nous. L'humilité, c'est reconnaître ce qui peut faire du bien à d'autres et que je porte. Et que j'ai reçu, parce que je l'ai reçu peut-être par une blessure que j'ai pu avoir, mais je l'ai reçu parce que je l'ai travaillé et que je peux faire bénéficier à d'autres de mon expérience. Et il en va de la fécondité de nos vies. Il en va de la fécondité de nos vies, mes amis. Nos vies portent du fruit, pas à mesure aussi que on découvre la lumière en nous, ce qui est lumineux, ce qui est de l'ordre du don de la grâce, et qu'on en fait bénéficier les autres, et qu'on ne le garde pas pour soi-même. Hein. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, hein, nous dit Jésus. Donc, je trouve que c'est très beau de dire, au niveau spirituel, par exemple, Saint Paul aux Romains qui dit, « Prenons une comparaison. En un corps unique, nous avons plusieurs membres. Qui n'ont pas tous la même fonction, de même. Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et les membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons, qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié, si c'est le don de servir, que l'on serve, si c'est l'on les fait pour enseigner, que l'on enseigne, pour réconforter, que l'on réconforte, celui qui donne, qu'il soit généreux, celui qui dirige, qu'il soit empressé, celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Tout c'est très beau ce passage donc, de la lettre aux Romains au chapitre 12. Hein, la lettre aux Romains au chapitre 12. Et puis la première lettre de Saint Pierre, ce chapitre 4. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte, comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié. Voilà, c'est le lieu de la glorification de Dieu que nous dit à travers ces deux, à travers Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est le lieu de la, de la glorification de Dieu, c'est le lieu, j'allais dire, de la construction du royaume. Alors, comment est-ce que... Alors, peut-être un autre point de dire comment est-ce qu'on fait pour reconnaître, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître qu'on n'est pas dans l'erreur ? C'est-à-dire qu'on ne se fait pas soi-même des idées de ce que pourrait être notre charisme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quel est le lieu de vérification de ce que j'ai pu découvrir comme lumineux dans ma personnalité et que je vais pouvoir mettre au service des autres. Vous voyez quel est le lieu ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que, premièrement, c'est que ça contribue à la communion. Un charisme contribue à la communion. À quoi est-ce qu'on voit que c'est un charisme ? À quoi est-ce qu'on voit que c'est un talent ? Ça contribue à la communion. À quoi on voit que c'est un talent ? C'est reconnu par les autres. Les autres disent « Waouh !» Et c'est bien de s'encourager aussi les uns les autres. « Qu'est-ce que tu organises les choses ?» On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ah ben non, ben je suis dentiste, bon, voilà, oui d'accord, très bien, mais bon ben oui, ok, c'est vrai que je n'avais pas vu tout de suite que tu étais dentiste, c'est vrai. Donc mais certainement, en fait, t'organiser ce week-end de main de maître, est-ce que à quand ça remonte la dernière fois où vous avez encouragé quelqu'un dans un charisme? Moi je vous pose la question, mes amis. À quand ça remonte? Où vous vous êtes encouragé, vous vous êtes dit du bien, dire du bien, se dire bénir. C'est ça que ça veut dire, bénédiction, dire du bien. Quand est-ce que vous vous êtes affermis les uns les autres dans la foi et dans vos humanités? Ton sens du beau, vraiment me scotche, tu as un goût, tu as un sens du beau qui est, on dirait, inné. C'est pas inné parce que ça a été travaillé, encore une fois, c'est pas le fruit de la génétique, hein, c'est le fruit de nos décisions et des formations qu'on a pu avoir, etc. Mais il y a des gens qui ont un vrai sens du beau, par exemple. Ça, tout de suite, trouver qu'est-ce qui, dans un appartement, le style de meuble, l'orientation, enfin, on se dit, mais d'où il sort ça, c'est un truc de dingue, je veux dire, c'est... Bon. À quand ça remonte, que tu as dit à la personne, écoute, là, t'as un vrai charisme. Nous sommes prompts à la critique. C'est pratiquement un sport national. Nous sommes prompts à la critique. Mais est-ce que nous sommes prompts à l'encouragement, à affermir nos semblables, les affermir dans ce qu'ils ont de plus lumineux en eux. Et pourquoi pas prendre ça comme axe de carême. Encourager. On a tellement besoin d'être encouragé. Appeler Jésus à Saint-Pierre, etc. Hein, va, affermis tes frères. Et comme disciples de Jésus, nous sentons souvent un petit troupeau, voilà, un petit nombre, voilà, et parmi nos amis, certains, voilà, nous délaissent la foi, ou même s'ils ont une éducation catho, etc. Mais besoin d'être affermis aussi dans notre humanité, dans notre foi certainement, mais affermis dans notre humanité. Encourager dans ce que nous avons de meilleur. C'est clairement un très beau carême, ça. Parce que le carême, c'est aussi une conversion. C'est le lieu de la conversion. Et c'est le lieu du décentrement de soi pour aller à la rencontre de l'autre. Et on voit, dans le carême, on aura des tas de rencontres avec de Jésus qui rencontre des gens. Hein, la Samaritaine, par exemple. Alors, je ne sais pas si cette année, ça, je suis un peu perdu avec les années, en fonction des dimanches et des années, etc. Mais ABC, mais en tout cas, il y a une année où c'est la Samaritaine, par exemple. Où vous pourrez lâcher, vous trouverez peut-être la femme adultère, etc. Soyez attentifs dans la parole de Dieu, quand Jésus rencontre quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça bouge à l'intérieur. Nous aussi, nous sommes porteurs du Saint-Esprit. Pourquoi ça ne bougerait pas à l'intérieur? Pourquoi, sortant de cette rencontre, les autres ne se sentiraient pas plus grands, plus beaux? Si nous sommes disciples de Jésus, et nous le sommes, mais voilà, c'est ça que nous voulons vivre, c'est ça l'appel à la sainteté. Passer en faisant le bien. Et nous en avons tellement besoin, je veux dire, les uns les autres, nous en avons tellement besoin d'être confortés, d'être sécurisés dans ce que nous portons. Parce que beaucoup aussi ont une image négative d'eux-mêmes. Nous en avons tellement besoin. Et c'est tellement peu mis en pratique et dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle. Or, je suis convaincu qu'un bon management, c'est un management lumineux qui donne à l'autre la claire vision de ce qu'il peut faire et faire de meilleur pour le bien de la société, de l'entreprise, du groupe, que sais-je, dans lequel il travaille. C'est pas la pression comme ça, c'est n'importe quoi ça. Mais c'est un engagement, il existe un management lumineux. On ne vous l'a peut-être pas encore rencontré. Mais oui, ça existe, je vous le dis. Non, mais ça existe, mais ça existe, voilà. Donc, mais ça existe, et ça va être vous. Non seulement ça va exister, mais c'est vous qui est, pour ceux d'entre vous, et vous l'aurez, si ce n'est actuellement le cas, mais vous l'aurez plus tard, des responsabilités. Pensez à ça. Je suis fait pour transmettre une lumière et rendre les autres plus lumineux, dans ma vie professionnelle aussi. Il n'y a pas d'opposition entre une certaine exigence dans le travail, parce que le travail doit être fait, ça c'est évident, et puis en même temps un encouragement. Le travail nous prend tellement de temps, mais le travail, moi j'en suis convaincu, et avant de rentrer dans la vie, j'ai travaillé, et je suis très attaché au travail, j'aime beaucoup le monde de l'entreprise particulièrement, c'était dans ce monde-là que j'ai travaillé, mais bon, et je trouve que c'est un lieu tellement beau aussi, qui peut devenir, qui n'est pas marqué par le péché aussi, mais qui peut devenir tellement beau aussi au service de ce qu'il y a de la construction de chacun. Je vous donne un exemple. À l'abbaye d'Ourscan, donc où je suis, là, donc à côté de Compiègne, on se lance dans un grand chantier de restauration, etc. Et les frères ont décidé que l'encyclique Laudato Si du Saint-Père allait être éclairé, tout ce chantier de restauration, donc une dimension sociale très forte et une dimension de protection de l'environnement très forte dans ce chantier-là. Et ça fait un mois que ça a commencé le chantier pour 4 ans. Donc et la première personne qui est en insertion, il y a plusieurs milliers d'heures d'insertion au marché des entreprises, parce que ça c'était une volonté de la communauté, eh bien je fais la connaissance de cette personne-là. Vous voyez, c'est quelqu'un, il ne s'agit pas seulement de redresser des murs, mais de relever des personnes. De redonner, de donner un travail temporaire, parce que c'est on peut pas donner. Mais voilà, j'ai vu cet homme-là qui est de la région, etc. Et j'ai vu quelqu'un, voilà. Et je l'ai encouragé, je l'ai remercié pour son travail. Manœuvre, il a fait, c'était du terrassement, bon voilà. Il a fait ce qu'il avait, le charisme qu'il a, avec tout le charisme. J'aime bien cette phrase de Sainte Thérèse, qu'on parle de la sainteté, vous vous rappelez avec les vers, la sainteté, voilà, c'est. Comment ça se passera au ciel? On lui pose la question. Et elle dit, mais au fond, est-ce qu'on sera, entre guillemets, jaloux les uns des autres de par la qualité de sainteté? Elle dit, non, c'est comme les vers, des vers de différentes tailles, de différentes capacités, contenances, mais nous sommes tous comblés par la vision de Dieu. Et je trouve que c'est pareil, même si nous ne sommes pas la vision de Dieu, mais En tout cas, nous le sommes dans la foi, mais d'encourager, de faire que la personne à nos côtés se sente relevée à notre contact. C'est possible. Et ça dépend aussi en grande partie de nous. Ça dépend d'un truc, c'est sortir de cette pudeur mal placée. Parce que bien souvent, la pudeur nous handicape pour dire et montrer le beau. On n'ose pas. Oh, je suis pudique. Pudeur mal placée. Il y a des pudeurs qui sont très bien placées, par ailleurs, mais là, c'est pudeur mal placée. Mais oh non, surtout nous, si on est très pudique, on n'ose pas. Non, ça. C'est pas ça, non, c'est pas. Voilà. Sortir de soi. Le carême, c'est un exode. On sort de soi. Oui, c'est très beau, ça aussi, ça. Sortir de soi et justement et de sortir de soi vers et que l'autre se découvre terre promise, hein, que le grand exode du peuple hébreu, voilà, c'est on va vers la terre promise aussi que qu'est l'autre. Intéressant quand ça me vient comme ça, mais l'épisode du buisson ardent, vous vous rappelez l'épisode du buisson ardent, hein, dans Genèse, etc. Et Moïse, donc, qui va paître le troupeau de son beau-père Madian, qui était prêtre païen du reste, bon, et à un moment donné, il voit un buisson ardent, hein, qui se consume, qui brûle sans se consumer. Et il entend une voix qui vient du buisson qui lui dit « Retire tes sandales, car cette terre est sacrée. » C'est-à-dire que la terre que lui, Moïse, où il est installé, où il met les pieds, il y a quelque chose de sacré. Chaque personne est une histoire sacrée. Dans cette révélation, il découvre que là où il est, il porte du sacré. C'est une décision à prendre dans nos vies, mes amis. De manifester la beauté, la vérité, la bonté, le bien, le beau, le vrai, qui est en chacun. Certes, le péché est là et nous ne le savons que trop, mais nous voulons aussi manifester le bien, le beau, le vrai, et c'est vraiment de façon lumineuse que l'on peut être des témoins aussi de l'Évangile. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes trop pudique.
C'est quoi votre charisme?
Ah, mon charisme. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de charisme. Ah non, je suis... Non, mais on n'est pas couché à minuit, là, donc... Là, j'ai beaucoup de charisme, dans le sens, ça c'est vrai, j'ai beaucoup de charisme dans le sens où déjà, moi je suis dans le style de caractère, là, quand j'ai fait mon truc, là, je me suis reconnu dans ceux qui sont un peu leaders, tu vois, ceux qui sont, comment ça s'appelle ça, le leader, le leader, le meneur, voilà, avec beaucoup d'intuition, je vois les choses, tu vois, j'ai une capacité de vision, ben, je vois pas de vision, moi, c'est-à-dire... Entendons-nous, je vois pas la Très Sainte Vierge toutes les quatre matins, donc non, c'est de vision, c'est-à-dire je vois les choses, comment les faire et comment y arriver, je les vois, on peut pas dire autre chose, donc je les vois. Donc, voilà. Et puis ensuite, le charisme de parole, le charisme de conviction, d'entraîner, de montrer la beauté de la finalité, d'organisation, oui.
Il est pas... Vous entendez,
oui, secondé, oui. Je pense qu'il y a, et quand je dis second, par exemple, ce style de tempérament qui est le mien, c'est un très bon second aussi, quand il a confiance dans l'autorité. C'est-à-dire que c'est des personnes, bon, pour faire bref, moi j'étais supérieur de ma congrégation pendant un temps, mais c'était des mandats. Et maintenant je ne suis pas, puis c'est un autre frère qui a assumé la responsabilité et il m'a demandé de le soutenir. Bon, et je lui fais très confiance et je le soutiens. Et seconder, c'est soutenir. C'est-à-dire que il y a des tempéraments qui. Alors moi, je n'ai pas de problème d'aller au devant de la scène, etc. Ce n'est pas un problème. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cette facilité-là, mais qui, peut-être plus en discrétion, peut-être suggèrent telle ou telle chose. Et la personne qui est en responsabilité, si elle a du discernement, elle l'écoutera. Elle dit, ah tiens, cette personne-là, elle me dit ça, c'est qu'elle a vu des choses que moi, je n'ai pas vues. Dans les charismes, dans les tempéraments que je vous ai décrits, en fait, sachez que je crois qu'il y a 8-9 tempéraments, en fait, sur 9 personnes, il y en a 8 qui pensent différemment ce que vous. C'est évident. Donc, il y a des gens qui voient des choses que vous ne voyez pas. Donc, c'est intéressant qu'on dise secondé, c'est vraiment qu'on dit des seconds, pour moi, c'est très important, c'est soutenir, c'est éclairer, c'est voir conseiller, et pas forcément avoir le devant de la décision. Oui. Ah, le Christ, oui, pour être Dieu, oui, a priori, il a tous les charismes. Maintenant, c'est intéressant, alors, au niveau humain, ce qui s'inscrit aussi dans notre humanité. Alors, à la différence de ce qu'on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de blessure, il n'a pas la blessure du péché originel. Donc, mais ce serait intéressant de voir qu'il a aussi un style de caractère. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il a un style de caractère. Et peut-être en fonction des étapes aussi de l'évangile, il a développé tel ou tel style de ce caractère. Quand c'est vraiment le meneur, quand au moment de sa passion, tu vois, il conduit les apôtres. Voilà, il a pas peur d'aller au conflit. Là, pour le coup, hein, la passion, c'est pratiquement ça. Donc, et peut-être voilà. Donc, oui, il a des complétudes de charisme, de talent. Et c'est de lui dont nous recevons les grâces. Oui.
Par rapport à cette question, je vais peut-être répondre avec l'énagramme.
Oui.
Pascaline, il y a écrit un livre qui s'appelle Les 9 portes de l'âme.
Oui.
Où justement, elle explique que finalement, même si on a développé une porte plus qu'une autre, on peut tous être appelé aussi à se repasser
d'une porte, c'est ça. On peut passer d'une porte à l'autre. C'est pas figé dans le marbre. Ce père Pascaline qui a écrit un livre là-dessus, que je recommande beaucoup, l'énéagramme, les 9 portes de l'âme. Du coup, c'est des choses qui sont. Il y a en nous potentiellement les 9 styles de caractère, que j'ai repris du reste ici. Mais on a, pour les circonstances de la vie, on a développé tel ou tel, mais ça ne veut pas dire que les autres portes sont fermées. Par exemple aussi, la question artistique, imaginons. Non pas que j'ai rêvé d'être un artiste, hein, c'est comme la chanson, mais il y a des gens qui ne s'autorisent pas à la vie artistique parce que il y a un style de famille, voilà, ils s'autorisent pas à être artistes alors que vraiment ils ont des talents, une appétence, une sensibilité qui les pousserait vraiment, mais parce que ils ont parfois peur de. Parce que dans la famille, il n'y a pas d'artistes, mais les artistes, c'est des crèves-la-faim, etc. Des trucs comme ça, un peu des croyances limitantes. Voilà, donc je trouve ça intéressant ce que tu dis, de dire il y a aussi peut-être d'ouvrir d'autres portes où nous, on s'en ressent, et que les 9 en tout cas nous sont ouvertes, c'est absolument, c'est très sympa. Oui. Oui. Alors, comment est-ce qu'on va travailler sur nous-mêmes pour avoir un ou plusieurs charismes à travers les différentes blessures qu'on a pu, la trahison, le rejet, l'injustice, etc. Je pense un premier travail, c'est de prendre conscience. De prendre conscience, de dire, tiens, je me suis construit, j'ai toujours voulu faire plaisir aux gens. Mais parfois, tellement trop, que j'étais l'altruiste qui devinait les désirs de l'autre, ce qui fait que les gens me fuyaient parce qu'en fait c'était trop, quoi, il y avait quelque chose d'excessif. Donc peut-être maintenant, du coup, je travaille sur moi-même ce côté de vouloir faire plaisir aux autres, je vais peut-être le tempérer. Et du coup, je vais, avant de proposer quelque chose, avant de proposer mon aide, je regarde, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont aussi disponibles pour cette aide? Je ne suis pas le Saint Bernard avec le tonnelé de Rome qui se porte au secours de la veuve et de l'orphelin, oui, parce que ça, c'est déjà épuisant, H24 comme ça. Et puis, voilà, et puis ça prive d'autres de pouvoir rendre service. Donc, oui, un exemple, voilà. Imaginons, vous êtes construit comme ça. Et du coup, le fait d'avoir été rejeté, etc., fait que vous vous dites il faut rendre service pour être aimé. Eh bien, vous vous dites bah oui, ok, je vois, je vois un peu. Bah maintenant, peut-être, je vais pas répondre tout de suite oui, présent. Je vais pas toujours tout de suite rendre service. Quelqu'un termine son eau et là, tout de suite jetant la carafe. Bon, non, ben, laisse-le poser le verre. Voilà, laisse-le. Bon, oui, donc. Et ensuite, je pense dans l'accompagnement spirituel ça, ou l'accompagnement aussi professionnel, parce qu'il y a des coachs maintenant qui aident beaucoup, des thérapeutes, qui aident à faire cette prise de conscience et qui vous aident à réfléchir. En fait, c'est ça. L'idée, c'est de vous mettre au travail. Dans tout ce qui est bilan de compétences, il y a ça aussi qui est donné. Aujourd'hui, on a des outils qui sont super quand même. Hein, donc, les bilans de compétences, c'est justement, on revisite un peu nos manières de fonctionner, de voir, tiens, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas, en fait, travailler, une sorte de conversion intérieure. Nous, on appelle ça, on prend le mot de conversion, le coach ou celui qui fait de la reconversion professionnelle, il emploiera un autre mot, mais par exemple, imaginons que vous soyez un meneur, vous soyez un leader, mais la difficulté du leader, c'est comme il a la vision des choses, il ne voit pas que les autres ont aussi d'autres manières de voir. Du coup, lui, il suit sa route, mais il va loin, mais tout seul. Ah, ok, d'accord, ok, du coup, j'ai compris ça, ok, d'accord, du coup, je dis, tiens, je vois telle chose, comment est-ce que vous voyez les choses? Ah, toi, tu vois les choses comme ça. Ok, moi, je n'avais pas du tout vu ça. C'est ça, travailler sur soi-même. Un examen de conscience. Un examen de conscience, tout à fait. Un suivi d'actes aussi qui fait qu'on se bonifie. Quoi. Oui. Oui, justement, vous affermir, moi je me dis, tiens, c'est un temps qui est un temps béni. Et c'est un temps, c'est une chose, j'ai percuté ça cette année-là, je n'avais pas percuté les autres années, mais c'est un temps où les anges sont particulièrement présents. Remarquez bien que ce soit la tentation au désert, que ce soit et les anges le portèrent, etc., les anges le servaient à la fin, que ce soit l'agonie ou l'ange de l'agonie, je me dis, tiens, et si dans ce travail sur vous-même, nous croyons à la présence des anges qui parsèment, qui sont dans toute la Bible, hein, les anges, vous savez, et de confier aussi à notre ange gardien ce travail-là. Moi, ça, je voudrais vous exhorter durant ce carême à être plus en contact avec les anges. Parce que le carême, c'est un lieu, un temps angélique, d'une certaine manière. Hein. Donc, voyez-le, c'était quand mardi dernier, je pense. Oui, mardi dernier. Jésus qui dit, voilà, quand il viendra avec tous ses anges, etc., il dira aux brebis à ma droite, au bouc à ma gauche, etc. Mais là aussi, il y a les anges qui sont mis sur le devant de la scène. Je me suis dit, tiens, ça fait plusieurs fois que l'ange est mentionné. Est-ce que ce n'est pas une invitation à avoir plus de prières? L'ange vient éclairer notre intelligence pour accomplir la volonté de Dieu. Oui, l'ange est là pour, c'est pas seulement trouver une place de parking, ça peut tout à fait nous être utile, mais l'ange est là pour donner, éclairer notre intelligence, nous soutenir dans le combat intérieur, nous soutenir dans la réforme de nous-mêmes, c'est-à-dire nous soutenir dans le travail sur nous-mêmes.